Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 31 octobre 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le commandant des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique a lancé un avertissement sévère aux ennemis, affirmant que les forces armées iraniennes ne connaissent aucune limite lorsqu'il s'agit de protéger la sécurité du pays. Un Palestinien a été tué après avoir blessé plusieurs soldats israéliens et des colons lors d'une opération en Cisjordanie occupée, et en Somalie au moins 100 morts dans le double attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le commandant des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique a lancé dimanche 30 octobre un avertissement sévère aux ennemis, affirmant que les forces armées iraniennes ne connaissent aucune limite lorsqu'il s'agit de protéger la sécurité du pays. Le général de brigade Ali Reza Tangsiri a fait ces remarques alors qu'il s'adressait à un rassemblement de hauts gradés de la marine du CGRI faisant référence aux récentes émeutes en Iran et à une attaque terroriste visant un sanctuaire sacré dans le sud du pays. « Nous détruirons la sécurité de toute partie qui tenterait de nuire à notre sécurité et nous étoufferons toute menace dans l'œuf en surveillant minutieusement son origine », a déclaré Tangsiri, évoquant l'attentat terroriste dans la ville méridionale de Shiraz, à la suite duquel 15 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées, il a déclaré. Lorsque l'ennemi a découvert que sa pression maximale contre l'Iran avait échoué, il s'est lancé désespérément dans l'assassinat de nos civils innocents d'une manière méprisable. Il a également noté que malgré toutes les sanctions et les obstacles auxquels l'Iran est confronté au cours des 40 dernières années, il a été en mesure de surmonter tous les obstacles et d'aller de l'avant. Il a déclaré que cet incident terroriste unirait la nation iranienne plus que jamais et que l'Iran donnerait certainement une réponse appropriée à ceux qui sont derrière cet attentat. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a mis en garde contre les conséquences de la présence étrangère dans la région. Lors d'une conversation téléphonique dimanche 30 octobre avec son homologue azerbaïdjanais Jeyoun Bayramov, le ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré la ferme opposition de l'Iran à toute présence étrangère dans la région, soulignant que la coopération entre les pays de la région est la clé de leur paix et de leur sécurité. Réitérant la position de principe de l'Iran qui repose sur le respect de l'intégrité territoriale des pays de la région, y compris celle de la République d'Azerbaïdjan, le haut diplomate iranien a souligné « La sécurité de la région est une affaire collective. Nous considérons la sécurité de la République d'Azerbaïdjan comme la nôtre et celle de toute la région. Nous déclarons notre opposition à tout déploiement de forces étrangères dans la région qui est jugée contraire à la paix, à la stabilité et à la coopération régionale. » La République islamique d'Iran, a-t-il fait savoir, est d'avis que la présence étrangère complique le statu quo dans la région. Seuls les mécanismes régionaux pourraient aider à résoudre les problèmes de la région, y compris le format 3+3 de coopération entre les trois pays du Caucase du Sud que sont l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, plus la Russie, la Turquie et l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a aussi rappelé que l'Iran poursuivrait invariablement ses efforts pour résoudre les différends entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Pour sa part, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères a loué les efforts de l'Iran en faveur de la paix et de la stabilité régionale. Il a également fait part de l'opposition de Bakou au déploiement de forces étrangères dans la région, soulignant l'importance de la poursuite de la coopération régionale, y compris dans le cadre du format 3+3. Bayramov a déclaré que des contacts directs et réguliers entre les homologues iraniens et azerbaïdjanais indiquaient la profondeur des relations entre les deux pays. « Nous apprécions et respectons ces relations », a-t-il dit, avant de saluer la prochaine visite du président du Parlement iranien, Mohammad Barer Ghalibaf, en Azerbaïdjan, la qualifiant d'étape importante vers l'essor des relations bilatérales. Les forces israéliennes ont tué un autre Palestinien à la suite d'une opération à la voiture bélier qui a blessé 5 colons près de la ville de Jéricho en Cisjordanie occupée. Le centre d'information palestinien, citant des médias israéliens, a déclaré qu'après l'attaque de dimanche, les forces du régime ont abattu l'homme palestinien qui conduisait la voiture au sud de Jéricho. Plus tard dans la journée, le ministère palestinien de la Santé a identifié l'homme comme étant Barakat Moussaouda, 49 ans, du village d'Al-Ezariya, à l'est de la ville occupée d'Al-Rotz. Il a ajouté que Da avait succombé aux blessures qu'il avait subies lors des tirs israéliens, près du carrefour de Nabi Moussa, au sud de Jéricho. Des sources médicales israéliennes ont déclaré que les soldats et les colons blessés avaient subi différentes blessures à la suite de l'incident. Ils ont ajouté que le conducteur a d'abord percuté des Israéliens près du village de Nabi Moussa, puis a continué à conduire et a percuté un arrêt de bus, blessant d'autres personnes. Les colons blessés ont été évacués vers les hôpitaux d'Al-Rotz occupés. Le Front populaire de libération de la Palestine a publié une déclaration saluant l'opération héroïque en Cisjordanie. Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, a également salué l'opération, affirmant qu'elle avait blessé 6 soldats et colons israéliens. Le mouvement du djihad islamique palestinien a également réagi à l'opération ce dimanche, affirmant qu'elle prouve une fois de plus la vitalité de notre peuple et la valeur de nos combattants pour frapper l'ennemi à Jenin, Naplouse, Al-Khalil et Ramallah. L'attaque signalée est survenue au milieu de raids israéliens fortement intensifiés dans toute la Cisjordanie à la recherche d'hommes armés palestiniens présumés responsables d'une série d'attaques meurtrières contre les forces israéliennes par les forces de la résistance palestinienne qui a commencé en mars. Plus de 100 Palestiniens ont jusqu'à présent été tués lors de la brutale répression du régime sioniste contre les résidents autochtones de Cisjordanie. Samedi, 4 Israéliens et un Palestinien ont été blessés dans une attaque à l'arme à feu près d'un poste contre les Israéliens dans la ville occupée d'Al-Khalil, également connue sous le nom d'Hébron en Cisjordanie. Le régime sioniste a occupé un excès à Cisjordanie, y compris Al-Rotz Est, dans une guerre d'agression fortement soutenue par l'Occident en 1967. Depuis, il a parsemé le territoire de centaines de colonies illégales qui sont venues abriter des centaines de milliers de colons sionistes qui ont immigré vers la Palestine occupée, principalement d'Europe et des États-Unis. Alors que l'OPEP Plus décide de réduire la production de pétrole brut, la crise du diesel s'aggrave en Europe où les stocks atteignent des niveaux dangereux. La situation n'est pour autant mieux aux États-Unis qui s'arrachent les cargaisons de diesel initialement prévues pour l'Europe. Le diesel commence à être plus cher que l'essence pour les Européens. Les stocks mondiaux de diesel et d'autres distillats sont en baisse depuis un certain temps alors que la demande a augmenté, entraînant une pénurie croissante. Certains facteurs ont contribué à cette situation, comme la grève des employés des raffineries françaises qui a aggravé la pénurie et les prochaines fermetures de raffineries pour cause de maintenance. L'Europe achète actuellement beaucoup de diesel russe pour combler le manque, mais cela devra cesser en février prochain lorsque l'embargo sur les carburants russes entrera en vigueur, ce qui aggravera encore une situation déjà compliquée en ce qui concerne l'approvisionnement en distillats moyens dans une région de grande consommation. Il est vrai qu'une grande partie du pétrole utilisé dans la production du carburant dont a besoin l'Europe provenait de Russie. L'Europe et les États-Unis ont commencé à réduire, voire à annuler les importations de pétrole russe avant même la mise en œuvre des sanctions, ce qui pourrait entraîner la pénurie, faire augmenter encore plus les prix en affectant les transports. La hausse des prix ne se reflète pas uniquement dans les carburants, mais aussi dans tous les types de produits. En Somalie, au moins 100 personnes ont été tuées et plus de 300 autres blessées dans le double attentat à la voiture piégée perpétré samedi 29 octobre avec pour cible le bâtiment du ministère somalien de l'éducation à Mogadiscio. La capitale somalienne a déclaré dimanche le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Le nombre de victimes risque d'augmenter, a-t-il averti devant les médias après avoir visité le site de l'attentat tôt dimanche. Un nombre indéterminé de personnes, dont des journalistes et des policiers, figurent parmi les victimes, indiquait plus tôt Sadiq Doudich, porte-parole de la police somalienne. Le groupe terroriste Al-Shabaab lié à Al-Qaïda, qui prend souvent pour cible la capitale et contrôle toujours certaines parties des zones rurales du sud et du centre de la Somalie, a revendiqué l'attentat. Le premier ministre malien Hamza Abdibar, tout en condamnant l'attaque, a prévenu qu'une telle action des Chebabs n'invaliderait pas l'engagement du gouvernement à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie a appelé dans un communiqué à des opérations militaires soutenues contre les insurgés afin de mettre fin aux attentats terroristes qui se multiplient dans le pays. Présentant ses condoléances aux familles des victimes, la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie a tweeté qu'elle souhaite un prompt rétablissement aux blessés et se tient résolument aux côtés de tous les Somaliens contre le terrorisme. Les explosions ont eu lieu alors que le président somalien et les dirigeants des États membres fédéraux, y compris les responsables de la sécurité, se réunissaient pour discuter des opérations offensives en cours contre les Chebabs. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Liban, l'antinormalisation restera toujours un principe. Le Liban et Israël ont signé jeudi 27 octobre un accord historique délimitant leurs frontières maritimes après des mois de négociations ardues par l'entremise des États-Unis et des Nations Unies. Iba Morat, l'analyste politique, a rédigé une synthèse basée sur des avis et opinions des analystes et politologues, notamment le professeur d'université expert en droit international Ali Fazlallah. Le professeur d'université Ali Fazlallah a déclaré que le régime sioniste a tenté de profiter de la situation des pourparlers sur la démarcation de la frontière maritime pour briser le refus du Liban à la normalisation avec Israël en envoyant des journalistes et des hommes politiques parmi les membres de la délégation. Il a affirmé que le Liban a sérieusement refusé d'avoir des civils dans la délégation car il s'en tient à sa politique qui s'oppose à la normalisation avec l'ennemi occupant israélien. Le Liban a fermement réitéré à plusieurs reprises que seulement les militaires pourraient être qualifiés pour faire partie d'une délégation devant participer à ce qu'on ne peut vraiment pas qualifier de pourparlers ou discussions, a souligné l'analyse politique assurant qu'il s'agissait plutôt d'une sorte de traité ou d'accord et que les deux délégations ne se sont pas réunies mais sont plutôt assises dans des salles séparées pendant que le médiateur faisait le travail. Il y avait des pressions pour tenir une réunion conjointe ou publier un communiqué conjoint et cela ne s'est pas produit. Celles-ci ne peuvent pas être qualifiées de pourparlers directs, mais il s'agit plutôt d'un traité qui se déroule par l'intermédiaire d'une tierce partie, qui est l'ONU. Et ce n'est pas nouveau pour le Liban, a déclaré Fazlallah. Le Liban dit qu'il cherche ses intérêts, mais ne lâchera jamais ses mandats anti-normalisation. Celles-ci étaient fondées sur trois ensembles de lois connexes. Le code pénal libanais, la loi de boycott d'Israël de 1955 et le code de justice militaire. L'antinormalisation fait également partie intégrante de la culture au Liban. Dans plusieurs événements sportifs, même les joueurs jeunes et adolescents se retirent des compétitions et des tournois internationaux pour montrer une position ferme contre la normalisation avec Israël. Récemment, en août, la joueuse libanaise d'échecs, Maggi Rassem Fawaz, s'est retirée du 4e tournoi international d'Abu Dhabi après avoir été tirée au sort contre un adversaire israélien. Toujours en février, le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a déclaré que la position du Hezbollah s'est fondée sur la non-reconnaissance d'Israël, affirmant l'opposition du Hezbollah à toute conspiration visant à normaliser, coopérer ou se coordonner avec les occupants israéliens dans le cadre des négociations de la démarcation des frontières. Malgré les prochaines élections dans le régime d'occupation israélien, les nouvelles sur l'accord ont occupé les médias israéliens au cours des dernières semaines. Reflétant les inquiétudes et le mécontentement du régime sioniste face à la situation de la démarcation de la frontière maritime. Dans ce droit fil, les médias israéliens ont déclaré que l'accord sur la démarcation de la frontière maritime avec le Liban prouvait la faiblesse du gouvernement Lapid dans la protection d'Israël.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat en direct depuis la capitale iranienne, Téhéran. Dans ce débat, nous allons évoquer la situation en Irak. En effet, les députés irakiens ont voté en faveur du cabinet du nouveau Premier ministre irakien composé de 21 membres. Ce jeudi, ce vote intervient une semaine exactement après l'élection par le Parlement d'un nouveau président, M. Rachid. Donc un nouveau gouvernement, un nouveau Parlement, un nouveau président et un nouveau Premier ministre pour l'Irak. De son côté, les autorités iraniennes ont félicité la composition et ce nouveau gouvernement, ce nouveau Premier ministre, le président Raisi, mais également le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Amir Abdollahian, ont envoyé séparément des messages de félicitations à ce nouveau gouvernement et ont souhaité renforcer davantage les relations et les coopérations entre les deux pays. Alors, qu'en sera-t-il de l'avenir de l'Irak? À quoi devrait-on s'attendre dans les jours, les semaines et les mois à venir en Irak? Qu'en sera-t-il surtout de la présence des forces étrangères, notamment des États-Unis? On en saura plus avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous invite à regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
Le Parlement irakien a élu jeudi 27 octobre Mohammad al-Soudani, Premier ministre. Les députés irakiens se sont réunis pour se prononcer sur le nouveau gouvernement du pays et celui-ci a pu voir le jour grâce à un vote de confiance en faveur du gouvernement dirigé par Mohammad al-Soudani. As-Soudani, qui avait été désigné comme premier ministre irakien, a été chargé au début du mois de former le nouveau gouvernement du pays après des mois d'instabilité politique. Les députés irakiens avaient élu le président du pays, Abdel Latif Rachid, le 20 octobre, à la suite d'un vote de 162 pour contre 99 contre, succédant ainsi à Barham Salih, qui était en poste depuis 2018. Selon un norme politique en vigueur en Irak depuis 2006, un candidat kurde est élu président, tandis qu'un sunnite dirige le parlement et qu'un chiite assume la fonction de premier ministre.
Voilà, de retour sur le plateau de Presse TV. Nous sommes en ligne en direct par Luc Michel, avec Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, et Philippe Hugo, analyste politique, qui est avec nous depuis la France. Monsieur Michel, je vous dis bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'élection du nouveau président, Monsieur Rachid, intervient après trois tentatives infructueuses de l'élection d'un nouveau gouvernement. Donc, l'Irak, qui avait une situation qui planait dans le doute depuis des semaines, des mois, voire. Et enfin, un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement, surtout félicité par les voisins. Dans un premier temps, Monsieur Michel, comment interprétez-vous cette élection et la situation générale en Irak?
Tout d'abord, bonjour à votre équipe et à vous-même, et bonjour Merci. Surtout à M. Philippe Hugo, que j'ai toujours plaisir à retrouver. C'est l'échec de 20 années d'occupation américaine en Irak. Vous savez, la géopolitique est la horreur du vide. En géopolitique, il y a des acteurs. Ce sont les États et les forces politiques. Lorsqu'un acteur disparaît, il est remplacé par un autre. On a vu, par exemple, lorsque la Jamaïque libyenne de Kadhafi a été détruite, on a vu le Tchad du maréchal Idriss Déby prendre sa place. C'est la même chose en Irak. Les Américains ont cru détruire l'Irak et ont cru plonger ce pays dans le chaos et l'occupation. Mais aujourd'hui, ce sont des forces anti-américaines qui prennent la direction de l'Irak. Et c'est une grande puissance anti-américaine, l'Iran, qui roule son rôle géopolitique de grande puissance régionale. Nous assistons donc à l'échec américain. Tout cela ne fera que renforcer la politique de l'axe de la résistance.
Mmh. Merci à vous, M. Michel. Restez avec nous. Alors, un grand bonjour également à Philippe Hugon qui est avec nous en direct depuis la France. Bonjour, M. Hugon, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous, M. Hugon, comment interprétez-vous la situation générale en Irak et, en fait, cette élection?
Oui, alors bonjour à toute l'équipe, bien sûr, et à notre ami Luc Michel, que j'apprécie beaucoup. Alors, en ce qui concerne la situation actuelle en Irak, moi, je dois dire que je suis très inquiet, puisque c'est la marge de manœuvre de ce gouvernement qui est extrêmement étroite. Alors, tout ceci rentre dans un contexte international qui est très difficile. Vous savez, l'Irak a de grandes ressources pétrolières et gazières. Et nous avons aujourd'hui une situation extrêmement difficile, extrêmement tendue avec la Russie sur un plan énergétique. Donc ça risque, tout ceci risque d'amener des alliances extrêmement complexes à gérer, puisqu'on sait très bien que l'Occident a un besoin permanent d'énergie. Donc ça, c'est un point qui risque d'apporter une grande, je dirais, une grande mésentente entre groupes politiques, entre pays, et ça va compliquer encore un petit peu plus les relations entre ce gouvernement irakien et les forces d'occupation américaines, hein, puis on sait très bien que les Américains sont très présents sur place et sont prêts à faire beaucoup de mal dans la région pour conserver cette mainmise sur l'Irak et sur l'énergie. Donc moi je suis très inquiet de cette situation et je pense que malheureusement les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Au contraire, les choses se dégradent. Plus les Américains et l'Occident serreront un petit peu la vis et plus la situation va devenir extrêmement difficile sur place.
Merci, M. Hugon. Restez en ligne. Alors, M. Michel, à votre avis également, est-ce que la situation va se dégrader ou plutôt c'est un échec pour la coalition, la soi-disant coalition internationale, les États-Unis présentes sur le sol irakien depuis des années sous prétexte d'instaurer la paix et la sécurité? Est-ce que ces élections ne sont-ils pas un début du retrait des Américains?
Je ne partage pas les vues pessimistes parce que c'est un dégagement de l'Irak des griffes de l'impérialisme. Le problème de l'Irak, c'est l'existence de la région autonome kurde. Elle a été séparée du reste de l'Irak dès 1995, lorsque les Américains avaient tendu une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Irak. Et cette zone, aujourd'hui, elle joue le rôle des intérêts étrangers, des États-Unis et la Turquie. Mais la tendance globale, évidemment, c'est l'échec des Américains et la tentative, évidemment, de resserrer l'emprise américaine sur l'Irak avec l'assassinat du général Soleimani, qui représentait la politique de la résistance. Elle n'a pas pu déboucher sur un renforcement du camp impérialiste. Donc moi, je reste optimiste, évidemment, d'autant plus que aujourd'hui, l'emprise occidentale dans le domaine des hydrocarbures, il est combattu à la fois par Moscou, Téhéran, mais tous les producteurs de gaz et de pétrole dans le monde, et donc l'Iran est plus isolé, pas plus que l'Irak.
Merci à vous, M. Michel. Alors, M. Hugon, vous avez évoqué votre inquiétude quant à une dégradation de la situation en Irak. Est-ce que la formation de ce nouveau gouvernement est peut-être plus de stabilité et avoir un gouvernement stable en Irak n'aiderait-il pas à un retrait peut-être forcé et précipité des États-Unis, des forces américaines de l'Irak?
Oui, alors moi je suis pas optimiste hein, sur cette situation parce que cette crise de l'énergie que l'on a actuellement en Europe, hein, aux États-Unis, puisque on ne peut pas faire sans pétrole malheureusement, va apporter des accords qui risquent d'être un petit peu difficile à gérer. Quand on parle de l'échec américain en Irak, je suis tout à fait de l'avis de Luc Michel, c'est un échec à longue échéance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, je dirais que ça fait quand même plus de 20 ans que les Américains ont malgré tout gagné sur le plan énergétique, puisque même si ils sont condamnés, même s'ils perdent dans des tas de domaines, ils restent quand même présents sur place, quelque part, c'est quand même une petite victoire, et qui leur permet de contrôler malgré tout la région. Et ça, malheureusement, c'est pour moi une grande tristesse de voir que le peuple irakien, et quand je parle du peuple irakien, c'est un petit peu le peuple de différents pays comme l'Iran, comme la Syrie, qui souffre énormément de cette situation, pendant que nous, en monde occidental, nous vivons pas trop mal une situation qui est invivable sur place. On a une très grande indifférence, je trouve, envers tous ces gens qui meurent chaque jour. Et moi, c'est ça qui me rend très pessimiste, parce que je vois une très grande indifférence au niveau des peuples occidentaux par rapport à tous ces peuples qui souffrent. Et ceci pour des raisons économiques, des raisons politiques. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis aussi pessimiste quand je vois la situation se dérouler actuellement au Moyen-Orient. Malheureusement, je dirais que je vois pas aujourd'hui un gouvernement qui aura suffisamment de force pour pouvoir gérer cette situation. Je pense que ça va introduire un certain nombre de compromis, et les compromis dans certaines situations deviennent très vite ingérables. Mm-hmm. Donc ça risque de relancer des vagues de violence, des vagues d'attentats, et pour cette raison-là, oui, je suis inquiet.
Et Monsieur Hugon, en ce qui concerne une coopération, une relation davantage renforcée, une alliance entre l'Iran, l'Irak, les autres alliés, à savoir le Liban, la Syrie, donc l'axe de la résistance, est-ce qu'on ne pourrait pas rester quand même un petit peu optimiste au renforcement de cette alliance avec ce nouveau gouvernement irakien ?
Alors, sur ce point, je suis d'accord. Là, on peut être optimiste sur ce point. Ça risque de resserrer un petit peu les liens. Le problème, c'est est-ce que l'Occident ne va pas perturber les cartes dans cette diplomatie d'entente. Et malheureusement, c'est ce que je crains. C'est ce renforcement de façon à essayer, je dirais, de torpiller quelque part certains accords, de façon à ce que l'Irak reste dans une situation difficile, afin que le monde occidental puisse une fois de plus profiter de cette situation, hein, et s'accaparer un petit peu les réserves gazières et pétrolières de l'Irak. Et je pense que c'est le gouvernement actuellement, le nouveau gouvernement irakien, va avoir une marge qui va être extrêmement réduite pour conduire cette diplomatie.
Merci beaucoup. Restez en ligne. Monsieur Michel, vous, à votre avis, cette alliance qui pourra se former davantage entre l'Iran, l'Irak et donc tout l'axe de la résistance avec ce nouveau gouvernement irakien, n'augure-t-elle pas de bonnes choses pour l'avenir ?
Tout d'abord, je voudrais intervenir sur Kalimotu. Bon, je suis comme lui, je partage sa tristesse au sort des peuples. C'est justement la question qui a dominé le sommet des Dakar sur la sécurité qui vient de se tenir en Afrique. Les Africains ont expliqué qu'ils souhaitaient ma propre position dans la guerre en Ukraine à partir du moment où les Occidentaux étaient indifférents au malheur des peuples africains. C'est exactement ce dont il s'agit. C'est cet égoïsme occidental. Maintenant, il faut retenir que ce qui est capital, c'est l'affaiblissement des États-Unis, leur éjection d'Afghanistan. Il faut souhaiter maintenant une éjection de Syrie. Lorsque l'Irak ne sera plus brillant des taux, il l'est déjà peu du côté de l'Afghanistan, mais qu'il sera plus brillant des taux du côté de la Syrie, les choses seront possibles avec l'axe de la résistance. Rappelons-nous que la politique américaine en Irak d'agression, elle était pilotée par l'ambassadeur américain en Afghanistan, à Kaboul, qui était l'ambassadeur Khalilzad. C'est l'architecte de la politique américaine en Afghanistan et en Irak. Cette politique est un échec. C'est cela que je veux retenir comme touche optimiste dans cette configuration. géopolitique.
Merci pour vos explications. Alors, en ce qui concerne des politiques américaines, M. Hugon, les États-Unis sont quand même assez préoccupés et occupés, en quelque sorte, dans cette crise ukraino-russe. Donc, sur un front, les États-Unis sont assez occupés. Est-ce que ceci pourrait davantage affaiblir les Américains sur le terrain en Irak, donc la formation de ce nouveau gouvernement, une alliance avec l'axe de la résistance de ce nouveau gouvernement et les préoccupations des États-Unis sur d'autres fronts, à savoir l'Ukraine?
Oui, de toute façon, il faut savoir que la domination américaine va se finir dans les 15-20 ans qui viennent, puisque je pense que, vous savez, les États-Unis, c'est un peu en géant avec des pieds d'argile. Et aujourd'hui, il y a malgré tout un réveil de d'un certain nombre de dirigeants occidentaux. Et cette politique menée par les États-Unis qui ont conduit de partout à des guerres et au chaos et à la mort de centaines de milliers de personnes à travers le monde, cette politique doit cesser et va cesser, même si ça prend encore un petit peu de temps, parce que je pense que tout ceci va prendre beaucoup de temps, d'autant plus que les difficultés économiques que l'on connaît en Europe ou aux États-Unis font que les peuples et que les populations ont tendance à se refermer un petit peu sur eux-mêmes et jouer un petit peu la carte de la survie économique. Donc il est vrai que leur état d'esprit est occupé par autre chose que ce qui peut se passer à travers le monde, mais je pense que cette domination américaine qui a fait tant de mal à travers le monde va s'effondrer petit à petit du fait de la situation économique américaine. Je crois qu'ils n'ont jamais été quand même dans une situation aussi difficile et à tous les niveaux. Moi, je dirais la meilleure chose qui pourrait arriver, c'est pas très gentil de dire ça de ma part, mais il est à souhaiter que le monde occidental connaisse un effondrement financier afin que l'on cesse d'intervenir dans les politiques intérieures d'un grand nombre de pays. Alors aujourd'hui, on parle de l'Irak, mais c'est le cas d'un grand nombre de pays, comme le disait Luc Michel également en Afrique, mais c'est également le cas, comme on l'a vu en ce qui concerne les Américains, le mal qu'ils ont pu faire en Amérique du Sud. Eh bien, il est à souhaiter que l'on connaisse une crise financière importante afin que les choses puissent être mises à leur juste place et qu'on cesse d'intervenir comme on le fait depuis des dizaines d'années dans un grand nombre de pays et qu'on déstabilise, qui crée le chaos économique mais qui crée surtout la mort de centaines de milliers de personnes à travers le monde.
Merci pour vos explications. À votre avis, vous, Monsieur Michel, quand est-ce qu'on sera témoin de la fin de la présence interventionniste de l'axe US-OTAN, non seulement au Moyen-Orient, comme le dit M. Hugo, mais également en Afrique et dans d'autres pays du monde entier?
Le projet géopolitique mondial des Américains, c'est un échec. À la fin de la chute de l'Union soviétique, ils ont proclamé le nouvel ordre mondial. Il était basé sur un projet géopolitique, c'est justement ce nouvel ordre mondial, et sur un projet géoéconomique, c'est la globalisation, qui était la domination de l'économie mondiale par les Américains. L'année passée, il y a un livre fondamental qui a été publié, c'est le livre noir de la globalisation. Il démontre que toutes les opérations géopolitiques américaines sont liées aux opérations géoéconomiques de la globalisation, et que le coût des guerres américaines de la globalisation et de 600 millions d'êtres humains. Nous assistons au crépuscule de ce projet américain. Donc je suis optimiste pour voir ce projet terminé. Mais avant, les Américains ont un projet de contre-offensive. C'est un espèce de banco géopolitique. Ils pensent que profitant de ce qui est encore leur puissance, ils peuvent tenter un coup de banco géopolitique et tenter de faire que le 21e siècle soit un nouveau siècle américain. Donc il faut s'attendre au dernier sursaut de la bête blessée. Et lorsqu'une bête blessée se défend, c'est à ce moment-là qu'elle est la plus dangereuse.
Merci à vous, M. Michel et M. Hugon. Il y a aussi la question du soutien qu'apportent les gouvernements européens aux politiques interventionnistes des États-Unis partout dans le monde. Jusqu'où ce suivisme aveuglé se poursuivra-t-il, à votre avis, de la part des pays européens?
Je crois que c'est surtout une question économique. L'Europe est dans une situation économique catastrophique. Et comme le disait très bien Luc Michel, une bête blessée est plus dangereuse qu'une bête en bonne santé, puisqu'ils sont capables de faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on peut craindre. Et aujourd'hui, on voit encore les politiques européennes se calquer sur la ligne américaine, ce qui est, à mon avis, une très très grande erreur que commet l'Union européenne. Et moi, je souhaite vraiment, comme je vous le disais, c'est peut-être pas très bien de dire ça aujourd'hui, mais il y a qu'un effondrement financier qui fait que les États seront obligés de se recentrer sur leur politique intérieure et que l'on s'occupe enfin de nos affaires et qu'on cesse cette ingérence permanente comme on le fait depuis des dizaines d'années. Et je vous dis bien, ces ingérences, elles créent des centaines de milliers de morts. Et je trouve que dans le monde occidental, ces centaines de milliers de morts qu'ont pu faire ces politiques interventionnistes, eh bien, on parle pas beaucoup des victimes et du mal que l'on aura pu faire depuis une cinquantaine d'années.
Merci beaucoup. Et donc, Monsieur Hugon, vous avez évoqué peut-être la nécessité d'une éventuelle crise économique. Donc, il y a aussi la crise énergétique qui sévit l'Union européenne dans les jours à venir, les semaines à venir, avec l'hiver et l'automne. Et donc, ce manque d'énergie dû au soutien qu'apportent les pays européens aux États-Unis dans la crise ukraino-russe, n'est-ce pas, Monsieur Hugon?
Ah oui, tout à fait. Alors ça, il est clair que vous savez, en Europe, il suffit d'aller dans un supermarché, vous voyez les rayons qui sont pleins, et Noël approche, on va voir la période des cadeaux, les périodes festives, et les peuples européens n'ont pas conscience des difficultés, et surtout, non seulement pour certains ils en ont pas conscience, mais délibérément ils refusent de voir les réalités en face. Pendant que nous, on va faire la fête au moment de Noël, eh bien des tas de gens vont mourir de faim. Et tant que l'Union européenne et les pays occidentaux ne seront pas touchés par ces crises alimentaires, ne seront pas touchés par ces crises économiques, ces crises de travail, eh bien beaucoup de gens ne voudront pas ouvrir les yeux sur la réelle situation. Et l'autre partie de la population, elle, qui en a conscience, ne refuse catégoriquement de voir les réalités en face. Et tant que nous ne serons pas touchés personnellement par toutes ces crises, eh bien on ne comprendra pas ce que vivent ces gens et la souffrance que nous imposons à tous ces peuples.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Hugon. Le mot de la fin est à vous, Monsieur Michel, on vous écoute.
Écoutez, les politiciens qui sont au pouvoir à Bruxelles, ce sont des politiciens atlantistes. C'est une classe politique comprador qui a été mise au pouvoir par les Américains. Lors du traité de Maastricht, ils ont décidé dans le traité de confier la défense de l'Europe à l'OTAN. C'est la mort du projet géopolitique de l'Europe. Le grand géopoliticien, Jordi von Lausen, c'était un général autrichien, il est mort aujourd'hui. Il avait écrit il y a 25 ans que la participation des politiciens atlantistes européens aux guerres américaines en Irak et en Yougoslavie, c'était une trahison à long terme des intérêts fondamentaux de leur peuple. C'est à cela que nous assistons. Il faut suivre deux phénomènes fondamentaux. C'est d'autre part la colère et la misère des masses européennes qui vont devoir choisir entre manger, se chauffer, rouler en voiture ou tout simplement vivre décemment. Et le refus des élites neutres européennes, les diplomates, les politiciens, les généraux, les industriels, de se voir attirés dans le désastre américain par les politiciens atlantiques. C'est cela qu'il faut suivre, c'est cela qui me rend optimiste aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci à Luc Michel, géopoliticien, qui était avec nous depuis Bruxelles, Philippe Hugon, analyste politique qui est avec nous depuis la France. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette édition de débat. Vous pourriez également revoir toutes les émissions et les informations sur notre site web french.presstv.ir. En vous souhaitant une très bonne journée, je vous dis au revoir et à très bientôt.
L'Iran et son septième art. La naissance d'un lyrisme de l'authentique. Le cinéma iranien des années 1990. Première partie. L'Iran découvre le cinéma très peu de temps après son apparition, avec des films importés et d'actualité. Le premier long métrage iranien est Abi et Rabi, 1930, réalisé par Rabaneh Soanian. Avec l'apparition des films sonores en persan, le cinéma devient très populaire, notamment avec La Filor, réalisé en 1933. Dans un premier temps, le cinéma iranien est à la fois sous l'influence du cinéma indien et de la censure. Les films étrangers au contenu politique, par exemple représentant une révolution ou des actions syndicales, ou contraires aux mœurs, ne sont pas autorisés. Les années 1960 ont été une période d'influence occidentale forte, mais c'est aussi à la même époque qu'une nouvelle vague émerge dans le cinéma iranien. Les jeunes metteurs en scène utilisent alors de nouvelles méthodes créatives sans craindre la critique. Le film novateur et néo-réaliste de Dariush Mirchoui, La Vache, 1969, s'approprie un style européen pour en faire du cinéma iranien. Ce film est le premier film iranien à se pencher sur le monde rural, sans hésiter à montrer la pauvreté et la misère des zones rurales à cette époque. Ce film raconte l'histoire d'un fermier qui chérit sa vache gestante. La vache meurt en mettant bas son petit et le fermier, ayant perdu son gagne-pain, perd graduellement la raison, entouré par les villageois qui comprennent sa souffrance et tentent de l'aider. Le fermier devient ainsi fou et s'identifie à la vache, pensant qu'il forme un être unique avec elle. Ce film est aussi une parabole, car la vache reflète symboliquement les liens entre l'homme et la nature. Le régime du Shah soutient au début la diffusion de ce film, mais il l'interdit un peu plus tard car les vues du directeur s'opposent à celles du Shah, réticent à mener des réformes. Un autre film culte de l'époque réalisé la même année que Gav est Reysar, 1969, de Massoud Kimiei, qui rompt lui aussi avec la tradition cinématographique de l'Iran en critiquant l'occidentalisation de la culture iranienne. Le régime Pahlavi était favorable à cette occidentalisation et en 1972, un réalisateur hollywoodien est invité à réaliser un film célébrant la culture persane sur les ruines de Persépolis. Ce cinéaste américain réussit très vite à s'attirer les foudres des Iraniens, notamment en raison de l'opulence de son train de vie, dans un pays où les écarts de richesse sont alors extrêmes, avec une majorité vivant dans une grande pauvreté. Durant les années 1970, le cinéma iranien produit plusieurs œuvres de qualité, notamment L'étranger et le brouillard, 1975, de Bahram Beizaï. Durant cette décennie, plusieurs dizaines de films sont réalisés exclusivement pour le marché intérieur. Cependant, la production cinématographique ralentit notablement à l'approche de la Révolution du fait des troubles qui la précèdent.
La révolution islamique change complètement la donne. Dès le début des années 80, quelques films initient la renaissance du cinéma iranien. Citons « La balade de Tara » 1980 et « La mort de Yazdgerd » 1982 de Bahram Beyzaï et « La quête » 1982 d'Amir Naderi. De beaux films sortis en 1985 attirent pour la première fois l'attention internationale sur le cinéma iranien. « Le coureur » d'Amir Naderi et « Bachou, le petit étranger » 1985 de Bahram Beyzaï. Le coureur est l'histoire d'un jeune orphelin analphabète vivant dans un pétrolier rouillé et abandonné au milieu d'un bidonville près du golfe Persique. Le film dépeint fidèlement un monde de pauvreté, dans lequel la collecte et le vol des ordures sont une méthode courante de survie. Dans Bachou, le petit étranger, Beyzaï montre la vie d'un enfant dans le contexte de la guerre Iran-Irak, 1980-1989, un conflit qui coûte la vie à près d'un million d'Iraniens. La guerre a particulièrement bouleversé la vie des femmes et des enfants. Bachou, l'enfant du Sud, est forcé de migrer tout au nord de l'Iran, dans une région où la langue, la culture et le climat lui sont étrangers. Le metteur en scène exploite de nombreux paysages pour aborder le thème universel de la proximité de l'homme et de la nature, bien présent dans le cinéma iranien pré-révolutionnaire. Beyzaï revient dans les années 90 avec « Les Voyageurs » 1992, un film très proche du théâtre. Il faut noter que Beyzaï est l'un des meilleurs dramaturges iraniens. En raison de problèmes de financement faibles, l'action du film se déroule dans une seule pièce. Beyzaï retourne au symbolisme animal dans « Tuerie de chien » 2001, où un chien enragé est utilisé comme métaphore de la corruption. Un chien fuyant face à l'homme symbolise une relation antagoniste et s'oppose aux aspects harmonieux de la culture iranienne. Ayant tourné « La vache » en 1969, Dariush Mehrjoui revient au cinéma après la révolution islamique avec « Les locataires » 1986, « L'école où nous allions » 1989 et « Hamoun » 1990. Il est également le réalisateur d'une trilogie composée de « Sarah » 1994, « Paris » 1995 et « Leila » 1996, qui explore la vie des femmes dans la société iranienne contemporaine. Ce film rappelle l'atmosphère d'un théâtre grec avec des femmes au destin tragique dans un monde dominé par les hommes. N'oublions pas Abbas Kiarostami. Le cinéma d'Abbas Kiarostami est basé sur une recréation idéale de la situation pour une progression lente qui donne le temps de penser au spectateur. C'est un cinéma qui résonne plutôt qu'il ne dicte. Il affecte plus qu'il n'impacte. Kiarostami veut effacer la distinction entre les longs métrages et les documentaires, en particulier dans ses premières œuvres. La prochaine fois, nous vous parlerons encore plus du cinéma d'Abbas Kiarostami. Les films iraniens s'illustrent par leur simplicité trompeuse, leur subtilité et leur intelligence. Ils font bon usage des symboles. Tous les metteurs en scène maîtrisent l'art de décrire les paysages, capables de montrer la beauté des quatre coins de l'Iran. Leurs histoires ont une signification universelle. L'humanité et l'individu s'opposent souvent l'un à l'autre. Les metteurs en scène expriment des choses sérieuses, mais de façon ludique, avec souvent un humour grimaçant. Ils empruntent beaucoup aux traditions et méthodes riches des films documentaires et informatifs. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette étude. D'ici là, passez une très bonne semaine. Au revoir. Thank you.
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের